toi, ô mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh.
Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Antoine et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Pas de frontières pour la rage. Je vous rappelle que le principe est simple, nous rencontrons des personnes parlant français et qui vivent dans plusieurs mois, qui vivent pardon, depuis plusieurs mois dans un pays étranger afin de découvrir les cultures, les coutumes, les traditions, les climats et les anecdotes de plusieurs pays. Plusieurs émissions ont déjà été faites. Donc vous pouvez retrouver les émissions de la Palestine, de Russie, de Suède ou encore d'Espagne. Vous pouvez retrouver donc ces émissions sur dans l'onglet pardon et podcast des émissions. Matteo et Lohan vont animer cette émission avec moi.
Bonjour.
Salut.
Mais aujourd'hui nous sommes avec Mélinée. Bonjour Mélinée.
Et la France.
Alors Mélinée, quel âge as-tu ?
Alors moi j'ai 26 ans.
Et d'où viens-tu ?
Alors, à la base de la Sarthe, mais je fais mes études à Tours.
D'accord. Dans quel pays es-tu en ce moment ?
Alors, en ce moment, je suis en France, avec la particularité d'être sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
D'accord. Où se situe-t-il le territoire de la Nouvelle-Calédonie ?
Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est une île qui est au large de l'Australie, à environ 1500 km de l'Australie et à environ 20 000 km de la France. C'est à peu près à l'opposé du globe.
D'accord. Et peux-tu nous préciser où tu es en Calédonie, au nord, au sud ?
Alors là, en ce moment, je suis sur la capitale, à Nouméa. Nouméa, c'est sur la côte ouest, plutôt vers le sud. Donc voilà, moi pour le moment je suis à Nouméa et je vais partir vadrouiller dans le nord dans pas beaucoup de temps.
D'accord, et à quelle ville française pourrait-on comparer Nouméa
en gros ? Alors Nouméa c'est assez particulier parce qu'ici c'est la capitale, mais en métropole ce serait une petite ville.
C'est plus grand ou plus petit que Tours ?
Eh bien, c'est exactement la question que j'étais en train de me poser. C'est plus grand que Tours.
D'accord. Okay.
Mais ça reste très, très, très agréable à vivre comme capitale. Et puis, comme c'est sur le bord de mer, forcément, c'est différent. C'est assez paradisiaque.
Depuis combien de temps es-tu en Nouvelle-Calédonie à Nouméa ?
J'y suis depuis fin septembre.
D'accord. Et quel est le décalage horaire ? Combien de temps à peu près ?
Alors, on a 10 heures de plus que vous.
D'accord.
Donc nous, par exemple, voilà. Là, il est 14h35 quand on enregistre l'émission. Toi, il est quelle heure chez toi ?
Chez moi, il est minuit 36.
Ok. Bah merci de prendre le temps d'enregistrer cette émission avec nous à minuit 36.
Est-ce que tu vas rester encore longtemps en Nouvelle-Calédonie ?
Alors moi je suis là pour 3 mois et demi, donc je repars en janvier. Je prends l'avion le 7 janvier, donc c'est très bientôt malheureusement.
Donc tu vas fêter Noël là-bas ?
Oui, et Nouvel An.
D'accord.
J'ai fêté Noël sur Ouvéa. Ouvéa, c'est une des îles Loyauté, donc ça fait partie de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est une petite île à côté. Et voilà, si vous tapez Ouvéa, vous allez voir que des plages paradisiaques. C'est Noël là-bas.
Toi, tu passeras pas de Noël sous la neige, mais plutôt sous le soleil.
C'est ça, ça va être un peu bizarre. D'ailleurs, ici, ils ont mis les décos de Noël partout dans les villes. Il y a un énorme sapin de Noël sur la place principale à Nouméa et c'est assez étrange de voir des décos de Noël quand il fait 30 degrés dehors. On a du mal à s'y faire.
Alors, comment qualifierais-tu le climat de la Nouvelle-Calédonie ? La température et le soleil ?
C'est chaud ! Chaud. Ici, en fait, on est à l'inverse de la métropole, donc ici, on est en plein été. Donc, on n'est pas encore au top du top des températures, mais bon, il fait 30 degrés, donc c'est largement suffisant pour nous. Donc là, il va faire très très chaud en janvier, en février, et puis après, l'hiver arrive tranquillement. Et donc, l'hiver, ici, c'est en juillet à peu près. Bon, faut savoir que l'hiver, c'est 20 degrés, quoi.
Et le climat, il est tropical.
Alors, en ce moment, non, c'est plutôt la sécheresse.
Okay.
Mais oui, c'est un climat qui peut être, par exemple, cyclonique. Là, ça va être la saison des cyclones. Donc oui, ça peut partir en grosse tempête et en cyclone assez rapidement.
Alors, pourquoi as-tu choisi d'aller dans ce pays et par quel dispositif y es-tu allé?
Alors, en fait, moi, je suis en études d'éducatrice spécialisée à Tours. Et donc, dans le cadre de ces études, j'ai des stages à faire. Et pour notre deuxième stage, on avait la possibilité de partir à l'étranger si on le souhaitait. Et donc, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir partir. Et j'ai choisi la Nouvelle-Calédonie parce que ça me permettait d'aller sur un territoire où on parle français. Donc, pour pouvoir travailler avec un public qui partage la même langue que moi, pour pouvoir écrire des écrits professionnels aussi plus facilement. Et puis ici, ce qui est intéressant, c'est que il y a une grosse interculturalité sur le territoire, et du coup, moi, ça m'intéressait de venir un peu me frotter à ça et voir comment les gens vivaient ici ensemble. Et puis prendre un peu de soleil, c'est pas mal aussi.
C'est quoi le métier d'éducateur ou d'éducatrice spécialisée?
Alors, le métier d'éducatrice spécialisée, en fait, je suis amenée à travailler auprès de différents publics fragilisés pour soutenir les personnes qui en ont besoin. Donc, ça peut être travailler dans tous les services de protection de l'enfance, mais aussi de la protection de la famille, de réinsertion, dans toutes les structures de handicap. Voilà, c'est assez large. Et donc là, en ce moment, en Nouvelle-Calédonie, je travaille dans un foyer parental qui accueille des mamans et leurs bébés. Donc des mamans qui sont fragilisées, soit parce que chez elles, c'est un climat familial très compliqué, un climat de violence, soit parce qu'elles ont des problèmes psychiatriques. Enfin voilà, ça peut être différents soucis. Et donc, elles sont accueillies au foyer parental, avec soit enceintes, soit avec leur bébé, pour un peu les soutenir dans cette période et leur donner 2-3 filons pour que ça se passe bien.
Ok. Et on passe le bonjour au chien juste derrière qu'on entend en fond de...
C'est pas un chien, c'est ma coloc qui a peur d'un cafard, je pense.
Ok. Bah, big up à ta coloc, alors.
Je vais la laisser courir toute seule dans la maison.
Ok.
Donc, comme c'est un stage, ton logement, il n'est pas à ta charge?
Si, tout est à ma charge. C'est ça le bonheur d'être étudiant. Parce qu'en fait, on pouvait avoir des aides si on partait en Europe. Et comme la Calédonie est un territoire et non pas un pays, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie n'est pas encore indépendante, elle est toujours rattachée à la France. Du coup, c'est pas considéré comme un territoire européen. C'est pas considéré comme l'étranger. Et du coup, je n'ai aucune bourse. Donc, tout est à ma charge. Les billets d'avion, mon logement ici et tout ce qui est nécessaire pour vivre ici, ça a été à ma charge.
Et comment as-tu gagné l'argent pour... t'as fait des petits boulots pour pouvoir te payer ton logement et tes billets d'avion?
Ouais, ben en fait, moi, j'ai 26 ans, donc j'ai fait pas mal de choses avant d'arriver en école d'éduc. Donc, j'ai travaillé avant d'arriver en école d'éduc et du coup, je touche Pôle emploi. Ma formation, elle est rémunérée par Pôle emploi. Donc ça m'aide bien à pouvoir assurer cette formation et du coup, ça m'aide aussi ici.
Mais est-ce que tu as fait des petits boulots quand même à côté, au-delà de Pôle emploi? Genre l'été ou des trucs comme ça?
Oui, ben cet été, je suis partie en séjour adapté, par exemple. Donc oui, je bosse pendant les vacances. Après, j'ai pas bossé pendant ma formation, mais oui, les vacances, oui, je bosse.
Et aussi, tu disais que ça va devenir peut-être un pays indépendant, la Nouvelle-Calédonie?
Alors, c'est un vaste sujet. Donc, en fait, la Nouvelle-Calédonie...
Je propose qu'on en parle dans la deuxième partie, après la pause musicale, ça je l'enlèverai. C'est une question qui est super intéressante, Mathéo, mais je pense que là, elle va bien le développer, Mélinée. Et tout ce qui va parler de province, etc., ça va rentrer dans cette thématique-là. Ouais, mais vu que là, on reste vraiment sur Mélinée, qu'est-ce qu'elle y fait, etc. Mais tu la gardes, cette question, et on la parle après la pause musicale.
Alors, est-ce que tu te sens en sécurité en Nouvelle-Calédonie?
Oui, je me sens en sécurité en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu aucun souci, d'aucun ordre depuis que je suis ici. Ça a été que du bonheur. Après, il y a un climat ici de violence. Moi, je ne l'ai pas du tout vécu, mais par les témoignages que j'ai pu avoir autour de moi et les conseils que j'ai pu avoir, on ne fait pas n'importe quoi ici. On n'est pas chez nous et du coup, on ne fait pas n'importe quoi, mais comme dans n'importe quel endroit. Mais non, moi, je me sens en totale sécurité ici et plutôt très bien accueillie par les gens que j'ai pu rencontrer.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les gens, par exemple, quand il y avait un... Tout à l'heure, tu parlais de tempête ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que les gens, ils t'ont dit de faire dans ces cas-là?
Nous, on n'en a pas encore vécu. Peut-être qu'on va en vivre en janvier. Là, la saison, elle va commencer. Après, ici, les gens, ils sont habitués. Il y a des alertes régulièrement quand il y a besoin. Et donc, tous les bâtiments ont des protocoles. Donc, au travail, par exemple, où je suis en stage, là, la réunion de mardi, on a revu le protocole d'alerte cyclonique. Donc, on a revu où étaient les lampes anti-cyclone. Enfin, voilà, ce qu'il faut faire en cas de cyclone. Mais les cyclones de grosse puissance restent rares. Et voilà, les gens sont préparés.
Ok. Quel artiste as-tu choisi pour cette première pause musicale?
Alors, je sais pas du coup lequel on passe en premier.
C'est toi qui choisis.
Eh ben, on va commencer par Julia Paul.
Okay.
Julia Paul, c'est une chanteuse qui est d'ici, que j'ai pu voir en concert au Mazik Festival, qui est un gros festival qui a eu lieu en novembre, où il y avait Patrice aussi, c'était bien chouette. Et elle a fait la première partie, et voilà, c'est une toute jeune artiste d'ici qui commence à bien marcher, et c'est plutôt chouette ce qu'elle fait.
Ok, bah, on écoute cette pause musicale et on se retrouve juste après.
It's not a dream, we're gonna leave in this town without shoes or team. Everybody open your eyes, realize that life is so quick. We're gonna leave in this town, just being together and swaying. It's not too late yet, keep in the, it's not too late yet, keep in the, everybody. Tonight, we don't care about the rest, yeah.
Et c'était Julia Paul. Donc nous nous retrouvons avec Mélinée. Y a-t-il des tribus en Nouvelle-Calédonie ?
Oui, il y a plein de tribus en Nouvelle-Calédonie. Donc la Nouvelle-Calédonie, le peuple de la Nouvelle-Calédonie, c'est les Kanaks. Donc en fait, ici, on est en Kanaky. Et les Kanaks, ils organisent leur société en tribus. C'est des sociétés claniques, on dit, donc ils sont organisés autour de clans. Et donc, il y a énormément de tribus en Nouvelle-Calédonie. Sur chaque territoire, il y a des tribus leur tradition, leur langue, leur coutume. C'est l'organisation sociale de base pour les Kanaks, c'est la tribu.
Alors, quand tu parles de tribu, on peut s'imaginer une tribu très exotique qui se met un pagne fait avec des branches, etc., des feuilles. Non, c'est des personnes qui sont totalement civilisées dans notre civilisation actuelle, mais qui ont gardé des coutumes et des traditions, c'est ça ?
C'est ça. C'est des gens qui... Voilà, l'occidentalisation est passée par là bien fortement. Ce qui leur pose souci d'ailleurs pour maintenir les traditions et les coutumes et les transmettre aux nouvelles générations. Mais oui, c'est des gens qui sont habillés à peu près comme nous, qui vivent dans des maisons qui des fois sont un peu fabriquées par ce qu'ils trouvent. Alors il y a des cases, il y a encore des cases traditionnelles dans des tribus, mais on est loin de l'image du pagne, et enfin voilà, faut s'enlever cette idée-là de la tête.
Il y a plusieurs langues dans le pays.
Oui, en fait, il y a la langue principale, donc c'est le français, et à côté de ça, t'as 28 langues, je crois, différentes, chaque tribu a quasiment sa langue, son patois, enfin voilà, donc en fait, t'as la langue officielle qui est le français, et puis après, t'as plein de langues Kanak, qui sont parlés ici. Et puis, tu as aussi les langues des minorités, des autres minorités. Ça, on en parlera peut-être après, mais il y a eu beaucoup de vagues d'immigration ici. Du coup, tu as beaucoup d'autres ethnies qui sont représentées sur le territoire qui ont eux aussi leur langue.
Tu as quelques mots que tu as appris à nous présenter là, ce soir ?
Le mot le plus simple et que tout le monde dit ici, c'est tata. Tata, ça veut dire salut, au revoir. Et ça, tout le monde le dit, même les métros, même les oreilles, même les caldoches. Donc là, il y a plein de mots qu'il va falloir que je vous explique. Mais oui, tata, c'est le mot qu'il faut savoir ici quand on t'arrive. Et puis après, c'est surtout des expressions, en fait, dans le langage que tout le monde partage. Des expressions que moi, quand je suis arrivée ici, je ne connaissais pas. Et par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Par exemple, c'est choc, c'est net. Ça veut dire c'est cool, ça le fait. Ou alors, t'as le tool pour te dire à tout à l'heure. Et la devise ici, c'est casse pas la tête.
D'accord.
En gros, te prends pas la tête. Ici, okay. C'est la devise nationale, quoi. C'est un art de vivre.
Là, tu parlais d'immigration, etc. Il y a un passé colonial. La France est arrivée sur cet archipel. Est-ce qu'il se fait encore ressentir ce passé colonial ?
Mais en fait, je ne sais pas vraiment si on peut parler de passé, puisque la Calédonie n'est pas indépendante. Donc, il y a un processus d'autonomisation qui est largement entamé. C'est-à-dire qu'ici... Donc le territoire, il est divisé en trois provinces, et les provinces, elles ont récupéré beaucoup de pouvoir de l'État français. Donc, il y a des gouvernements provinciaux qui sont en place ici et qui gèrent beaucoup de choses, mais l'État français gère encore aussi pas mal de choses ici, notamment la justice. Donc il y a encore des compétences qui doivent être transférées. Il y a un référendum qui doit arriver... qu'on attend depuis longtemps, qui potentiellement doit se faire avant 2018, où la population devra se prononcer sur une indépendance ou non. Mais après ce référendum, et suivant le résultat, enfin voilà, rien n'est fait. et il y a encore beaucoup d'interrogations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Et toi, tu sens une volonté d'indépendance ou alors il y a aussi, s'ils deviennent indépendants, il y a une économie qui sera peut-être moins présente vu qu'ils seront plus en lien avec la métropole?
Bon, en fait, il y a un parti, le FLNKS, qui a été dans les années où voilà, il y a eu des conflits forts, qui revendiquent ouvertement l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et qui aujourd'hui sont encore très présents sur le territoire et voilà. Après, il y a aussi des craintes, effectivement, du point de vue économique, mais aussi des craintes de paix sociale, quoi, parce que les choses se sont calmées. Dans les années 80 et 90, c'était tendu. Les choses se sont calmées, les gens apprennent à vivre les uns avec les autres. Il y a une idée de destin commun qui se met en place dans l'imaginaire collectif, mais voilà, il y a des populations qui s'inquiètent, et même des Kanaks qui s'inquiètent de, voilà, si on fait un référendum, quelle que soit l'issue du référendum, il y aura forcément des déçus. Et du coup, est-ce que ça ne va pas raviver les tensions? Enfin voilà, ça a créé beaucoup de questions, et voilà, donc c'est encore quelque chose qui est en construction et qui reste incertain, quoi.
Je me suis informé donc un peu sur la Nouvelle-Calédonie et j'ai vu qu'il y avait des provinces. Qu'est-ce que c'est que des provinces et,
En fait, ici, il y a donc la province sud, la province nord et puis les îles Loyauté. Donc les îles Loyauté, c'est toutes les îles qu'il y a autour. Et donc les provinces, tu as des gouvernements provinciaux et c'est eux qui ont récupéré les compétences de l'État français. Donc en fait, c'est comme un gouvernement, sans en être vraiment un, puisque c'est pas un État. Mais donc, les provinces, elles gèrent plein de choses sur son territoire. Donc, le gouvernement de la province gère toute sa province. Et voilà, c'est comme un gouvernement comme chez nous, sauf qu'ils n'ont pas toutes les compétences. C'est une organisation territoriale, quoi.
Est-ce que ça peut être comparé à une région par chez nous?
Oui, en gros, sauf qu'ils ont plus de pouvoir. Mais d'un point de vue périmètre, oui, ça peut être ça. Même département, vu la petite superficie de l'île.
Quel est le milieu politique et quel est le contexte social en Nouvelle-Calédonie?
Alors, le contexte politique et le contexte social, tu veux savoir les deux?
C'est ça.
C'est ça. Alors, le contexte politique, je viens un petit peu de l'expliquer. C'est-à-dire que on est un peu en attente ici de ce qui va vraiment se décider au niveau politique. Et ça se joue surtout à travers les questions d'indépendance, d'autonomie et du statut, quoi, qui reste incertain. Donc ça, c'est encore en mouvement et en interrogation. Et au point de vue social, ça découle un peu de ça aussi, quoi. C'est que traditionnellement, comme je vous le disais tout à l'heure, la société ici, la société kanak notamment, elle s'organise autour des clans et des tribus. Et donc il y avait un ordre social, une hiérarchie sociale qui était très respectée. Les anciens étaient très respectés. Et aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire qui est très jeune. La population est très jeune. Et évidemment, les jeunes, ils sont en contact avec le monde occidental beaucoup plus que leurs parents, grands-parents. Et du coup, ils sont un peu entre deux cultures. Il y a beaucoup d'exodes aussi pour venir bosser à Nouméa, pour venir trouver du boulot. Et du coup, il y a un peu des ruptures avec les traditions, avec les coutumes, avec le mode de vie en tribu. Et ça donne une génération qui est un peu paumée au milieu de tout ça, avec beaucoup d'ethnies qui se côtoient, et donc des questions d'identité, de place, enfin voilà. Donc le climat social, il est aussi empreint de ces questions-là, et puis du coup ça engendre sûrement ces questions d'identité et de place, et de questionnement de la jeunesse, des problématiques qu'ici on entend beaucoup parler et on les voit. Des problématiques d'alcool, des problématiques de cannabis et du coup des problématiques de violence. Alors je ne sais pas dans quel sens il faut mettre tout ça, mais en tout cas c'est des choses qui sont importantes ici dans le climat social et qui ont du mal à se régler.
Tu parles de cannabis et d'alcool. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en consomment.
Plus que oui. Tu l'as remarqué, plus que dans
alors,
ta vie.
En fait, c'est un peu compliqué de dire plus ou moins parce que ce qui se passe, c'est qu'ici, il y a eu des vraies études de fait sur les consommations, des études de terrain. Et par exemple, tu vois, notamment la violence. Je vais parler de quelque chose que je connais, il y a la violence faite aux femmes. Je travaille là-dessus un peu sur mon stage, là, et il y a des études sociologiques de terrain qui ont été faites qui ont montré qu'une femme sur quatre était victime de violence. Et en fait, en parlant un peu avec les professionnels de ce domaine, eux me disent que c'est pas qu'il y en a plus qu'ailleurs, c'est qu'ici, il y a eu des vraies études de fait et qu'en métropole, les études, elles sont basées sur les dépôts de plaintes et sur... les accueils en hébergement d'urgence et que du coup les chiffres ils sont faussés. Donc c'est pas forcément qu'ici il y aurait plus de violence, mais qu'on l'aurait plus étudié. Par contre, pour ce qui est de l'alcool et du cannabis, oui, il y a une consommation importante ici. Alors c'est deux choses différentes. L'alcool, faut quand même savoir que. En Nouvelle-Calédonie, à la base, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'alcool, en tout cas comme nous, on en a en Europe, et pas de plantation de cannabis. Tout ça, c'est arrivé avec les Européens. Et du coup, notamment quand c'était un peu chaud ici et qu'il y avait des affrontements européens-canaques, en gros, ce qui se dit, et ce que les vieux notamment peuvent raconter ici, c'est que on filait de l'alcool et du mauvais alcool aux Kanaks pour que tout le monde soit bien chaud et bien bourré et bien incapable de se révolter.
Ouais, pour les canaliser en fait.
Un peu tout ça. Et ce qui fait que c'est resté dans des pratiques un peu spéciales. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas forcément qu'il y ait énormément d'alcooliques ici, il y en a comme partout. C'est surtout que la consommation d'alcool, elle est à outrance. C'est-à-dire que le week-end, notamment les jeunes, mais pas que, ils commencent le vendredi après-midi et ils finissent quand ils tombent. Ils ne s'arrêtent pas avant d'être tombés. C'est une consommation d'alcool jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Voilà.
Et donc il y a des dispositifs, je suppose, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour essayer de sensibiliser, de contrer ça.
Oui, alors ça se met en place doucement, tout ce qui est prévention, notamment pour ce qui est addiction. Donc le cannabis, c'est pareil, c'est un gros souci ici, c'est très très dédiabolisé. En plus, le cannabis ici, il est super chargé en métaux lourds, parce que ici le sol, il est bourré de nickel et de plomb, et voilà, donc du coup, le cannabis qui vient d'ici, il est très nocif. Il arrache la tête. Et du coup, voilà, ça pose pas mal de problèmes. Et puis surtout, c'est complètement banalisé, quoi. Donc, tout le monde fume, à peu près. Enfin, non, pas tout le monde, mais c'est dédiabolisé. Et du coup, les services de prévention ont du mal à faire bouger les choses. Mais voilà, il y a énormément de travail à faire là-dessus. Il y a des services qui sont en place, mais il faudrait faire beaucoup plus, évidemment. Mais pour ça, il faudrait beaucoup plus de moyens.
Ok. On comprend bien la problématique, ouais.
D'accord. Est-ce qu'il y a des musiques particulières, des musiques régionales ou traditionnelles?
Oui, il y a des musiques traditionnelles, il y a des danses traditionnelles. Donc ici, on est en Océanie, hein, on est dans l'océan Pacifique, donc c'est toute la culture qu'on a dans nos imaginaires hein, de musique peace and love. Et ce qui est très intéressant, et enfin, notamment par rapport à la jeunesse aussi, ça pose pas mal de questions. Et c'est intéressant, c'est qu'il y a une identification au reggae et à la Jamaïque. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'ici, le reggae, c'est la musique principale. Et les t-shirts Bob Marley et les t-shirts à la Jamaïque et tout ça, c'est tout le monde, tous les jeunes ont ça, quoi. C'est la mode adolescente et c'est aussi qui se retrouve dans ces valeurs-là de paix et de lutte en même temps, quoi.
Y a-t-il, tout à l'heure, on parlait de tribus. Est-ce que ces tribus, elles ont des maisons, des architectures spécifiques?
Ils ont... Alors, tu as des cases traditionnelles, des fois. Après, les gens, de manière générale, ils vivent dans des maisons comme nous, à peu près. Mais par contre, tu as des endroits qui sont communautaires et qui restent communautaires. Tu as des farés. Donc, des farés, c'est comme des constructions, comme des préaux, si tu veux, qui sont ouverts. Et sous le faré, souvent, il y a des marchés, il y a les réunions, il y a... Par exemple, quand il y a de la prévention de fêtes dans les tribus, ça se fait dans ces lieux-là. Enfin, voilà. Et puis, tu peux avoir des cases aussi qui ont des rôles particuliers, des cases des chefs. Parce que, évidemment, dans l'organisation sociale de la tribu, tu as le chef de la tribu. Voilà. Donc, tu as la coutume qui se fait au chef de la tribu. Donc, c'est toute une organisation sociale qui peut se retrouver aussi dans l'architecture, dans les tribus, quoi.
Moi par exemple là, j'entends parler de toutes ces tribus, de tout ça. Moi j'ai envie d'y aller en Nouvelle-Calédonie parce que déjà il fait chaud, on a envie de découvrir un peu le pays. Est-ce que le tourisme il est important? Est-ce que le tourisme comme ça il fait vivre un peu le pays? Enfin...
Oui, alors c'est le tourisme est important. À Nouméa, c'est blindé de touristes et de métropolitains et de... Voilà. Sur les îles aussi. Après, dès que tu vas dans les territoires qui sont un peu moins étiquetés paradisiaques, donc dès que tu vas dans le nord, dès que tu vas sur la côte est, t'as beaucoup moins de monde. Et pourtant, il y a des endroits magnifiques à visiter qui sont beaucoup plus calmes, où justement, tu peux aller à la rencontre des populations, t'arrêter sur un marché... demander des mangues, il n'y en a plus, c'est pas grave, tu as une tante qui va t'en chercher exprès dans la tribu d'à côté, qu'en ramasse pour toi, enfin, c'est d'autres relations qui se mettent en place, et voilà, et donc c'est facile de voyager en Nouvelle-Calédonie. Après, effectivement, tu fais pas n'importe quoi, tu vas pas te trimballer seul un vendredi soir dans une tribu que tu connais pas, sans avoir un contact là-bas, parce que voilà. Mais, t'es très bien accueilli, quoi. T'es très très bien accueilli si tu fais les choses bien.
Et je te présente Théo qui vient de nous rejoindre derrière les micros. Donc Théo, je te présente Mélinée.
Salut.
Salut Théo.
Parle bien près du micro, hein, Théo. Ok, tu peux enchaîner, Antoine.
Quel est le sport le plus pratiqué? Parce que c'est quand même pas loin de la Nouvelle-Zélande. Donc est-ce qu'il y a un sport, le rugby par exemple, qui est très très pratiqué?
Ah, ça, c'est une bonne question. Ça joue un peu au rugby sur la plage. Ça joue au foot, beaucoup aussi. Au volley, au beach volley, forcément. mais rugby, tu vois, j'en ai pas vu tant que ça, finalement. Mais il y a beaucoup de sports qui se pratiquent sur la plage, donc beaucoup de beach volley, de volley... Et voilà.
Je me suis un petit peu renseigné, moi, et le sport le plus pratiqué, ou en tout cas il y a le plus de licenciés, ça reste comme en métropole, c'est le foot.
Ouais, il y a des terrains de foot partout, hein, dans tous les villages, t'as le terrain de foot. Il y a un terrain de baseball dans mon village, moi.
Il doit y avoir aussi beaucoup de surf, non? Ou il n'y a pas de...
Oui, ah oui, bah alors après, t'as évidemment tous les sports d'eau. Donc, t'as la plongée, le surf, le kitesurf, la voile. Alors là, tu peux t'en donner à cœur joie. Tu peux même juste prendre ton palme masque tuba et tu te fais une heure de randonnée palmée et c'est le bonheur absolu.
T'en as déjà fait, toi, de la plongée?
Alors, la plongée... ça a été un échec cuisant parce que j'ai des soucis d'oreilles. Donc voilà, je suis descendue à 1 mètre et j'ai le tympan qui m'a dit non, tu ne descendras pas plus loin. Mais on a la chance ici de... Voilà, tu prends ton masque palme tuba et tu restes en surface et c'est tellement une biodiversité sous-marine incroyable que tu vois des choses folles, t'as pas besoin d'aller plus loin, quoi. J'ai nagé avec une tortue aujourd'hui, pour vous donner une idée.
Est-ce qu'il y a des requins ?
Oui, il y a des requins, mais ils sont plutôt gentils.
Ils t'ont pas encore croqué.
On va pas trop parler de ça parce que si ma sœur écoute, elle va.
Un petit big up à Elsa au passage.
Mais t'as pas du coup, enfin, est-ce que t'as eu besoin d'aller loin ou vraiment pas du tout, juste rester au bord des côtes pour voir voir ces poissons.
Ouais, tu peux, hein, tu peux rester au bord des côtes vraiment et prendre tes palmes, faire 100 mètres et c'est magique. T'as des énormes patates remplies de corail, de coraux, de poissons, de tortues, de raies. Enfin, t'as pas besoin de. Alors après, tu peux aller sur des îlots. Ça se fait beaucoup ici. Tu prends un taxi boat, comme ils appellent ça, et tu vas sur un îlot à la journée. Et du coup, autour des îlots, forcément, t'as encore plus de choses à voir. Et c'est vraiment magnifique, quoi. J'ai vu des dauphins, j'ai vu des tortues, j'ai vu des raies. Enfin, c'est un peu magique, le monde sous-marin. Et on se rend compte que. Enfin, en tout cas, moi, venue de métropole, c'est un monde qui m'était complètement étranger et c'est juste magnifique, quoi.
Est-ce que t'as déjà eu des soucis ou des gens autour de toi avec, par exemple, des poissons un peu dangereux comme le tricoréillé ? C'est un petit serpent, non ?
Ouais, alors les tricoréillés, il y en a partout ici, notamment sur les îlots. Mais c'est un des serpents qui est le plus dangereux au monde, enfin le plus venimeux au monde. Mais c'est un serpent qui est adorable. Donc, il te mord que vraiment s'il n'a pas le choix et si tu l'embêtes très très fort. Et en fait, ils ont une toute petite bouche, donc ils peuvent te mordre que, par exemple, aux jointures des doigts ou des orteils. Tu vois, ils peuvent pas ouvrir beaucoup leur gueule. Et vraiment, on cohabite sans problème avec eux. C'est des serpents qui sont adorables, donc voilà, il n'y a pas trop de problèmes. On les voit descendre sur la plage pour aller se mettre dans l'eau et... Et il n'y a pas de souci avec eux.
Ok.
Et j'ai pas eu de souci avec d'autres animaux ici.
En ce moment, on parle beaucoup de montée des eaux, même ici en France, du réchauffement climatique. Est-ce que ça a un impact important sur la Nouvelle-Calédonie ?
La montée des eaux ici, moi personnellement, depuis que je suis là, j'en ai pas entendu parler. Mais. Ça pose problème dans la région, notamment au Vanuatu. Le Vanuatu, c'est une île qui est quand même pas très loin d'ici et qui se sont pris un énorme cyclone il y a pas longtemps. Et oui, la montée des eaux, c'est un problème pour toutes les îles du Pacifique et d'ailleurs. Après, ici, moi, j'en ai pas vu encore les ravages.
D'accord.
Alors, on va passer à un petit coin coutume et cuisine. Alors, quelles sont les spécialités culinaires et les coutumes qui t'ont marqué en Nouvelle-Calédonie ?
Alors, les spécialités culinaires, ici, on a la chance d'avoir plein de fruits de fou. On n'arrête pas, en ce moment-là, on est en pleine saison de mangue et de litchi, qui se dit litchi ici. Donc on a des arbres remplis de litchi et de mangue. On a des fruits de la passion, enfin voilà, tout ce qui est bien bon. Et puis sinon, en spécialité, ici le plat, c'est par exemple le bougna. Le bougna, c'est en fait des légumes locaux, donc t'as du manioc, t'as du taro, t'as de l'igname. Qui sont faits avec ça dépend. Alors normalement le top du top c'est des langoustes, mais quand on n'a pas tu peux mettre du poisson, du poulet, enfin voilà. Et en fait c'est cuit au sol avec des pierres chaudes. Donc ça c'est vraiment à la locale. Mais sinon ici ils mangent beaucoup de riz, ils mangent beaucoup asiat parce qu'en fait il y a eu beaucoup de vagues d'immigration asiatique aussi, donc ça se sent un peu dans les traditions culinaires. Mais voilà, beaucoup de légumes et de fruits locaux.
Donc, tu parles de viande, donc ça veut dire qu'il y a des éleveurs là-bas avec aussi, par exemple, des vaches ou...
Oui, alors en fait, il faut savoir qu'il y a toute une partie de la Nouvelle-Calédonie, notamment sur la côte ouest au nord. Ça ressemble à un petit Far West. C'est-à-dire que le paysage change complètement et tu te retrouves avec des énormes prairies avec du bétail dedans et des farmers un peu. Donc ça, en fait, C'est surtout les anciens bagnards, parce qu'en fait, la colonisation ici, elle s'est faite par le biais de bagnards, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et du coup, donc c'est les blancs principalement ici qui tiennent les fermes dans le nord-ouest là. Donc oui, tu trouves de la viande et puis tu trouves du poulet, mais qui est beaucoup moins bon et qui vient de Nouvelle-Zélande ou d'Australie et qui est bourré de choses pas très bonnes pour la santé.
Alors,
il y a beaucoup de prévention aussi à faire ici au niveau santé, parce que les gens mangent beaucoup en grosse quantité et mangent beaucoup sucré, boivent des boissons, notamment l'Oro. Ici, c'est la boisson que tout le monde connaît, c'est un espèce de jus d'orange, mais en fait, c'est que du sucre, c'est méga sucré. Et donc ici, niveau prévention du diabète, il y a du boulot à faire aussi.
Ok, bah alors, quel artiste as-tu choisi pour cette pause musicale?
Alors, le prochain artiste, c'est du reggae. Et je vous laisse découvrir, ici, c'est... Le reggae, c'est toute la journée à la radio et c'est trop cool.
Several times I failed you. For this girl, I want you to do my best. I feel like in jail. Prisoners of false charm and love. Every night I pray to. She will be with me next time. And feel our smell again, yeah. I hope the day will come. Low, low, I'll give you so good. It don't let me wait. Low, low, I need you so.
Je sais pas si tu l'as remarqué, mais en fait, j'ai des copains à mes parents qui sont vécus en Nouvelle-Calédonie. Et leur fils, il est né là-bas. Et puis, il me disait qu'il parlait beaucoup avec les yeux, les Calédoniens. En fait,
oui.
Du coup, c'était pour savoir si c'était...
quelque chose
que
t'as remarqué.
C'est complètement vrai. C'est quelque chose que j'ai pu vérifier. et éprouver, notamment un stage, parce qu'en fait ici, par exemple, tu poses une question, ils vont pas forcément te répondre oui, ils vont te répondre avec les yeux, c'est-à-dire qu'ils vont lever les sourcils au ciel. Donc pour nous, c'est un signe, enfin quand on lève les sourcils au ciel, voilà, c'est un signe soit d'agacement, soit de voilà, tu me fais chier. Pour eux, lever les sourcils au ciel, c'est un acquiescement en fait. Donc des fois, tu leur poses une question, ils lèvent les sourcils au ciel, t'as l'impression qu'ils se foutent de toi ou que tu les embêtes, et en fait, non, ils te répondent oui. Donc au début, faut s'habituer quoi, c'est une petite gymnastique à avoir.
Avant de conclure cette émission, est-ce que t'as un sujet dont tu voulais nous parler, Méliné, et qu'on n'a pas pu traiter durant cette émission sur la Nouvelle-Calédonie ?
Oui, bah, ce qui est important de comprendre sur le territoire calédonien, c'est que, enfin voilà, il y a un passé colonial fort et qui laisse des traces aujourd'hui importantes et qui fait que c'est un territoire très communautaire. Et donc il y a plusieurs communautés qui se côtoient sans se mélanger vraiment. Donc t'as les Kanaks qui sont là depuis toujours, c'est leur terre. T'as eu la colonisation qui est arrivée par le biais de bagnes, c'est-à-dire que la France a envoyé des bagnards sur la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est ces bagnards qui ont ensuite construit beaucoup de choses ici, beaucoup de bâtiments, et par exemple qui sont les farmers aujourd'hui, ceux qui ont les élevages dans le nord, etc. Et donc ils sont là depuis des générations et des générations. Donc ça, c'est les Blancs qui sont là depuis très longtemps, et c'est ce qu'on appelle les Caldoches. Donc entre les Kanaks et les Caldoches, c'est loin d'être le grand amour. Après, tu as ce qu'on appelle les Oreilles. Donc les Oreilles, c'est les métropolitains qui sont venus s'installer ici, mais par exemple, qui sont là depuis 20 ans, mais il n'y a qu'une génération qui est là.
Pourquoi ils s'appellent les Oreilles?
Les Oreilles, tu retrouves ça beaucoup, enfin dans toutes les îles, en gros, c'est l'étranger. Okay. Les Oreilles, c'est l'étranger. Et puis, t'as les métros, donc les métropolitains qui sont là, soit en vacances, soit pour 6 mois, 1 an, voilà. Et bizarrement, les Kanaks, c'est pas au métro qu'ils en veulent, pas du tout. C'est plutôt avec les Caldoches et avec les Oreilles qu'ils ont, voilà. Où là, le dialogue est plus compliqué des fois. Voilà, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui, les Kanaks, ils sont minoritaires sur leur terre. C'est-à-dire qu'avec toute l'immigration qu'il y a eu, la population Kanak, ça représente 40% en gros, hein, peut-être un petit peu moins de la population. Et à côté de ça, t'as tous les Européens, t'as une forte communauté wallisienne qui est présente. Il y a plus de Wallisiens ici qu'à Wallis. Et puis t'as toutes les communautés asiatiques et des îles de l'Océanie qui sont présentes aussi. Donc c'est beaucoup beaucoup de communautés qui se côtoient et avec peu de mélange quoi.
D'accord. Quand retiens-tu de cette aventure de 4 mois, c'est ça, non ?
3 mois et demi, ouais. Ce que j'en retiens, c'est super riche niveau interculturel, justement d'essayer de comprendre tout ce qui se joue ici, le poids du passé et ce qu'on prépare pour l'avenir, tout ce qui pèse sur les épaules de la nouvelle génération et du coup toutes les problématiques qui peuvent émerger autour de ça. Et puis pour moi personnellement, c'est juste une expérience géniale d'être venue en stage ici. D'avoir vécu des choses super fortes et puis au final ici c'est que du bonheur et voilà, c'est on peut avoir une image de ce territoire voilà compliqué avec des violences et tout, mais ici c'est la douceur de vivre et c'est casse pas la tête et c'est chouette.
Ok, donc si j'ai bien compris, tu serais repartante pour y revenir en Nouvelle-Calédonie?
Et oui, je serais très repartante pour y revenir.
Repartante.
Partante. Est-ce que tu as une dernière anecdote à nous raconter sur la Nouvelle-Calédonie ?
Une dernière anecdote.
Un truc qui t'est arrivé, drôle ou d'incompréhension.
Qu'est-ce qui m'est arrivé de drôle ? Quand je suis arrivée ici, j'ai débarqué. Le lendemain. Et je suis allée manger une glace et la serveuse qui m'a servi cette glace, c'est une amie d'enfance que j'avais pas vue depuis 15 ans. Et on s'est retrouvés complètement par hasard là. Et c'était juste fou de se dire que j'étais à 20 000 km de chez moi et que je retrouvais une amie d'enfance par hasard. Et là, je me suis dit que tout allait très bien se passer.
C'est chouette.
Alors, comment dit-on au revoir en kanak ?
Tata.
Bon, bah alors, tata, Mélimé.
Tata. Tata, les gars, merci.
Merci.
Salut à toi peuple khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien.